Alors, donc, nous sommes le samedi 5 avril, premier samedi du mois, et cet enseignement, pour les habitués, ils savent que le but, c'est de nous aider à entrer dans une vraie conversion, sachant qu'il n'y a pas de délivrance sans conversion. C'est clair? Vous pouvez chasser des démons, oui, mais ils reviennent. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il va en chercher sept autres plus méchants. Alors, pas de problème pour nous si nous avons choisi de vivre par Jésus, avec lui, en lui et pour lui. Pas de problème. Si nous sommes revêtus du Christ, c'est le démon qui a peur de nous. Ok, c'est pas l'inverse. Mais l'enjeu, c'est effectivement de nous convertir. Et si un jour nous estimons que ça va pour moi, je n'ai pas besoin de conversion, on peut vraiment s'inquiéter. Sauf si vous appelez l'Immaculée Conception. On le saurait. Alors, c'est une grâce à demander aussi que de mettre d'abord une intelligence du cœur et une intelligence de l'amour pour nous guider sur ce chemin de conversion, pour que nous soyons vraiment revêtus du Christ, donc de son autorité, pour guérir les malades, chasser les démons, parler d'autres langues, etc. Vous connaissez la finale de l'évangile de saint Marc. Ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient. Autrement dit, notre objectif n'est pas juste d'être libéré d'influence diabolique. Imaginez si vous êtes libéré, et alors ? Notre but, c'est de vivre avec le Christ. Je me répète, par lui, avec lui, en lui, pour lui. C'est ça notre but. Parce que sinon, si vous trouvez les fameuses prières merveilleuses sur Internet, les prières dites efficaces, eh bien, vous allez juste vous amuser à agiter l'ennemi, oui. Peut-être que vous allez vous agiter comme ça aussi. Et puis, il va revenir. Pas forcément demain. Ça peut être après-demain. Et ça sera plus grave. Voilà. Alors, en ce temps de carême, il me semblait opportun de relire avec vous cette prière de saint Éphrem. Vous savez, saint Éphrem, il a vécu au 4e siècle. Et cette prière, eh bien, elle est très, très connue dans l'Église orthodoxe. Et on va la prier plusieurs fois par jour. Nous allons la lire ensemble. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère. Ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Alors, déjà les premières paroles, Seigneur et Maître de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur est le maître de ma vie ? Question. J'ai une question à vous poser. autrement. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus ? Oui ? Alors, on va en être sûr. Je vous proposerai à la fin, peut-être dans cette journée, d'écrire votre prière de don de votre vie à Jésus. Moi, personnellement, ça m'est arrivé il y a un certain nombre d'années. J'étais en Allemagne, j'avais un ami qui s'est converti. Il était chef d'entreprise. 15 jours après sa conversion, tous ses collaborateurs étaient déjà convertis. Les secrétaires ont mis plus de temps, ils ont mis 3 mois pour se convertir. Et il me téléphone, il me dit « Amen, Alléluia ». Toutes les 3 minutes, je lui dis « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et voilà que c'était avant que je rentre en communauté et tout. Je travaillais en entreprise à l'époque. Et il m'invite pour une session destinée à des cadres d'entreprise. Donc c'est mon entreprise qui a payé la session. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que c'était une session chrétienne. On m'a quand même payé ma session chrétienne. Et donc, le soir, il y avait un tour de table, et chacun racontait comment il avait donné sa vie à Jésus. Donc c'était du style, moi j'étais dans la drogue, et puis maintenant c'est super. Moi j'étais dans l'alcool, et maintenant ma vie a changé. Amen, amen. Et puis moi, je n'avais rien de très original à dire. Et puis, j'étais le seul catholique de la bande, ils étaient tous évangéliques, quoi. Donc ça m'énervait un peu. Mais je me suis rendu compte que je n'allais pas vraiment donner ma vie à Jésus. Parce que je me disais, vous allez rire, mais je me disais, si je donne ma vie à Jésus, je vais devenir prêtre. C'est dangereux. Bon, vous voyez comment le Seigneur s'y prend. Et bon, moi j'ai dit, écoutez, moi je donne ma vie à Jésus tous les jours. Vous voyez, le genre de réponse un peu bateau, quoi. Alors ils m'ont dit, écoutez, voilà, on va en être sûr, tu vas juste écrire ta prière, quoi. Et je vous promets, quand j'ai écrit cette prière, j'ai vécu une effusion du Saint-Esprit. Quelque chose de complètement inconnu pour moi, une joie, une joie. Voilà, alors je nous invite à prier vraiment pour donner notre vie à Jésus, c'est tout bénef. On ne va pas se retrouver cloué dans un lit comme Marthe Robin pendant 50 ans. Non. Ça, c'est pas vrai. Si nous donnons notre vie à Jésus, alors nous serons vraiment vivants. Vivants. Parce que lui, il est la vie. Donc autant donner sa vie à celui qui est la vie, plutôt que de rester se contenter des miettes. Voilà, alors Seigneur et Maître de ma vie, eh bien, on va demander au Seigneur d'être vraiment le Maître. Seigneur, prends autorité, c'est ça le Maître, prends autorité sur moi, Seigneur. Alors on sait bien que l'autorité de Dieu n'a rien à voir avec une emprise. Parce que le mot autorité, comme vous le savez, veut dire augmenter, faire grandir. Alors Seigneur, prends autorité sur moi. Yosef, celui qui ajoute. En fait, nous sommes tellement blessés aujourd'hui par des tas de choses, surtout dans notre enfance, que parfois nous sommes fâchés avec l'autorité qui, effectivement, parfois, peut-être trop souvent, devient plutôt un pouvoir qu'une autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on demande vraiment au Seigneur d'avoir autorité. Il nous donne ses commandements. Le commandement, ce n'est pas juste une loi extérieure. Et puis, waouh, ça va être dur. Bon, non, non. Le commandement, c'est le chemin de la vie. C'est le mode d'emploi de la vie. Alors, Seigneur, prends autorité sur nous pour que nous puissions accomplir ton commandement d'amour. Et vous comprenez bien que l'autorité de Dieu respecte infiniment notre liberté. Romains 14, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Quel bonheur que de pouvoir dire à Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Là, nous sommes en sécurité. Jésus, je t'appartiens. 1 Corinthiens 6. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendons gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu dans votre corps. Alors si nous avions des yeux pour voir, eh bien, nous verrions la présence de Dieu rayonnante dans chacun de nous. Dans chacun de nous. Alors, peut-être dans cette première étape de la prière, nous pouvons dire au Seigneur notre oui. Que votre oui soit oui, nous dit Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alors Seigneur, tu es le maître de ma vie. Et aujourd'hui, je veux encore te dire que je t'appartiens. À toi et à toi seul. Viens prendre autorité sur moi, Jésus. Père, prends autorité sur chacun de nous par Jésus, ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Cette prière va d'abord nous proposer de pointer certaines maladies spirituelles qui sont en fait des racines de péché en nous. Alors, si vous êtes parmi ceux qui disent « Moi, j'ai pas de péché, pour moi, tout va bien », eh bien, vous êtes à plaindre. Parce que dans ce cas-là, on va vous dire au revoir et merci, parce que vous êtes déjà l'Immaculée Conception. Et effectivement, si vous n'êtes pas... Vous savez, il y a deux types de pécheurs dans l'Évangile. Il y a le fils prodigue, ça se voit. C'est la débauche, ça se voit qu'il est pécheur. Et il y a un autre type de pécheur, ça se voit pas. Celui qui est dans la maison du Père, qu'est-ce qui lui manque? Ce qui fait son devoir, il lui manque l'amour. Voilà. Alors, à la base de notre rupture avec Dieu, qui nous empoisonne la vie et qui fait que nos vies sont souvent lourdes et difficiles, et c'est pour ça que nous demandons la guérison. La guérison de nos cœurs, nous demandons pardon à Dieu parce qu'il y a des connivences en nous avec ces maladies. Eh bien, c'est tout cela qui représente comme des racines de péché en nous. Quelle est la première racine de péché? Vous allez me dire, il n'y en a plus que 3 ou 4, c'est vrai, mais on essaie d'être schématique. Eh bien, c'est la paresse. Alors attention, la paresse, c'est pas « j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai pas envie de travailler », c'est pas ça la paresse. La paresse, c'est une lourdeur du cœur. qui fait que on est plus à l'écoute de ce que j'ai envie, de ce que Dieu a envie. C'est ça la paresse. Exemple, je suis un père de famille, c'est le week-end, samedi après-midi, et j'ai plusieurs enfants qui sont en train de travailler leurs devoirs, et moi, qu'est-ce que je fais? Je tourne la pelouse toute l'après-midi. Eh bien, je suis un paresseux. Parce que ma place n'était pas à tourner la pelouse toute l'après-midi, mais peut-être juste une partie de l'après-midi, d'accord? Pendant la sieste, par exemple. Mais ma place, c'était d'être avec mes enfants. Ça, c'est la priorité. Et donc, je suis un paresseux. C'est ça, la paresse. La paresse, c'est... On va s'agiter dans des activités ou non-activités, je vous l'accorde, mais étrangères à la volonté de Dieu. C'est ça, la paresse. Alors, vous pouvez passer votre temps à briquer votre maison, ça brille, mais vous n'êtes pas là où Dieu vous appelle. Et finalement, cette paresse, c'est une volonté d'indépendance par rapport à Dieu. Je fais ce que je veux, quand je veux, ah, j'ai pas envie. Alors souvent, j'ai pas envie de prier, alors je prie pas, paresseux. Souvent, notre paresse, elle est spirituelle. Non, mon père, de toute façon, j'ai pas le temps. Ah bon? Alors en général, moi je fais toujours, je fais souvent, bon, vous prenez combien de temps pour votre corps le matin? Allez, la salle de bain, la cuisine, peut-être les exercices de gymnastique. Bon, allez, combien de temps? Bon, on va dire entre une demi-heure et une heure pour quelqu'un d'à peu près moyen, voire une moyenne, entre une demi-heure et une heure, bon, mettons trois quarts d'heure, allez. Et pour votre âme, combien de temps? Bon. La prière du matin, ça vous prend combien de temps par rapport à la cuisine et la salle de bain? Voilà, paresseux. La paresse spirituelle, ça existe. J'ai pas envie, j'ai pas le temps. Mais je préfère dormir. Oui. Est-ce que tu es là où Dieu t'appelle à ce moment-là? La paresse qui fait que nous sommes dans une volonté d'indépendance par rapport à Dieu. Et finalement, si nous sommes dans l'indépendance par rapport à Dieu, eh bien, ça sera pareil par rapport aux autres. On sera assez hermétique à ce que les autres vont nous demander. Paresseux. Et finalement, la paresse, c'est une anesthésie de l'être profond. On est comme anesthésié. Oh, j'ai pas envie. C'est une forme, finalement, d'acédie. Une passivité de notre être, qui nous fait croire qu'aucun changement n'est possible. Pourquoi se mettre au travail? Ça, c'est la paresse, ce « à quoi bon » qui va s'enraciner dans nos cœurs. Une espèce de somnambulisme, on vit comme endormi. Allez, on demande au Seigneur de nous réveiller, d'accord? Réveille notre cœur profond. Est-ce que nous sommes éveillés ou est-ce que nous vivons sous la domination de notre moi, j'ai envie, non, je n'ai pas envie. Moi. Et c'est un oubli, finalement, de notre relation vitale. Qu'est-ce qui nous fait vivre aujourd'hui? Si ce n'est le Seigneur. Quand les gens me disent, vous savez, je suis triste, je leur demande combien de temps vous passez en oraison tous les matins. Parce que là est la source de notre joie. La tristesse, c'est aussi une maladie de l'âme, certes, qui va avec la paresse assez souvent. Je ne parle pas de ces tristesses dues à nos souffrances, bon, qui finissent par passer, c'est un niveau du corps ou de l'âme psychologique. Je ne parle pas de ces tristesses-là. Je parle des tristesses de l'âme, cette fatigue de l'âme qui a perdu le contact avec Dieu, nos âmes sont fatiguées et ça devient difficile de se bouger, ne serait-ce que pour un temps de louange. Allez, on y va, waouh, waouh. Vous voyez, c'est parfois un peu lourd. Ou alors, si nous voulons faire preuve de charité autour de nous, de service, c'est un peu lourd. Ça, c'est la paresse spirituelle. Voilà, je pense que vous avez entendu, mais c'est très intéressant de nous ouvrir à cette réalité de la paresse, qui est finalement une rupture avec la foi. Le paresseux n'a pas la foi. Bof, à quoi ça sert? Et tout devient lourd. C'est le paresseux. La deuxième maladie qui est pointée ici, c'est le découragement, donc aussi une rupture avec l'espérance. Si j'ai rompu quelque part avec cette confiance en Dieu qui me dynamise et qui fait que je ne me fatigue pas, parce que c'est le Seigneur qui vit en moi, je parle à un niveau spirituel. Alors s'installe cette fameuse acédie due à quoi bon ? Le dégoût, forme de dégoût. Et ça, c'est un danger, ce qu'on appelle donc l'acédie. C'est l'expression fondamentale de l'absence d'espérance. La victoire du Christ est comme gommée. Et on va dire, non, j'y arriverai jamais. On ne va pas y arriver. Et voilà, on s'installe dans ces ténèbres qui deviennent alors dominantes. Et nous sommes dans une auto-malédiction. Cette acédie, c'est comme une impossibilité de reconnaître ce fil de vie, ce filon de vie qui est en nous. Et finalement, tout devient mauvais. Tout est ramené au négativisme. Alors attention, frères et sœurs, à nos pensées. Nos pensées négatives, vous savez, c'est le New Age qui nous a volé ça. Dans le New Age, on va vous faire travailler sur la pensée positive. Mais attendez, ils nous ont volé ça. C'est la Bible qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Et priez sans cesse. Ne vous inquiétez de rien. C'est la Bible qui le dit, on est d'accord. Alors, lorsque nous avons des pensées de mort, d'échec, sachons les rejeter immédiatement, au nom de Jésus. Sinon, eh bien, vous êtes complices avec votre vieil homme. Car nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes pas notre péché. Nous ne sommes pas notre maladie. Est-ce que c'est clair? Nous sommes enfants de Dieu. Colossiens 3:3. Considérez que vous êtes morts, mais ce que vous êtes, caché avec le Christ en Dieu. Ne nous trompons pas sur notre identité et ne laissons pas les pensées et les paroles de découragement nous envahir. Rejetons ces pensées immédiatement, dès qu'elles arrivent. C'est un conseil, parce que si vous les accueillez ne serait-ce que 5 minutes, vous allez voir que c'est souvent trop tard, hélas. Et plouf, plouf, sachons discerner à l'instant T quand la pensée de découragement arrive, pour la rejeter au pied de la croix dans le nom de Jésus, parce que nous sommes croyants. Et ça, c'est du concret. La troisième maladie spirituelle qui est pointée ici, c'est la soif de domination, une perversion de l'amour, foi, espérance et charité. Alors on est au niveau de la charité où finalement c'est précisément la paresse et le découragement qui va nous entraîner dans un désir de dominer. Et chercher finalement une compensation dans une attitude faussée envers les autres. Autrement dit, l'autre doit remplir le vide qui est en moi. Je ne suis plus dans une relation gratuite pour chercher le bonheur de l'autre, mais il y a quand même quelque chose en moi qui cherche mon intérêt. Et c'est l'esprit de domination, car ma vie n'est plus centrée sur Dieu, sur l'Évangile, et je vais dériver vers une forme narcissique, égoïste, égocentrique. Moi, moi, moi. Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller à l'église ? Cette personne ne m'intéresse pas. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment, qu'est-ce que tu dis, hein, ton attitude, après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez tout ce qui est faussé dans notre relation aux autres. Attends, l'amour c'est gratuit. Donc, si vous attendez d'être payé pour votre amour, je cite juste le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Vous avez récolté quoi ? Le mépris. Celui qui veut acheter l'amour ne récolte que le mépris. Cantique 8. Intéressant, non ? Et finalement, cet esprit de domination qui va s'installer en nous fait que je suis dans un rapport faussé, au réel, aux autres. D'abord, j'ai toujours envie d'avoir raison. Si je me fais critiquer, alors là, attention, pas question de me remettre en cause, je vais perdre la face. L'esprit de domination. Puis moi, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Voilà. Donc, attention. Cet esprit de domination qui fait que nous allons refuser toute soumission. Non mais, on aura beaucoup de mal à obéir au code de la route déjà, soyons concrets. Toute forme de loi. Alors dans l'église, je ne vous raconte pas, pourquoi obéir à mon curé, pourquoi obéir à mon évêque, on va discerner. Bon, voilà. Parce que moi je suis branché avec le Saint-Esprit, vous comprenez? Donc je verrai avec le Saint-Esprit. Ok, ok, ok. Esprit de domination. Et ce qui est plus grave, c'est que non seulement j'ai la velléité de conduire ma vie, évidemment avec le Saint-Esprit que j'ai instrumentalisé, mais j'ai aussi la velléité de juger autour de moi ceux que je veux juger. Donc, je vais fonctionner avec une justice humaine qui est une justice d'accusation. Alors, il y a les gens bien, et puis il y a les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cet esprit de domination nous met évidemment du côté des gens bien. Mais est-ce que vous êtes des gens bien ? Vous aurez envie de répondre, ah oui, quoi ? Ben non. Mais pas forcément des gens bien, mais des gens qui ont besoin d'être transformés par la grâce. Et il y a encore du boulot. Merci Seigneur pour ton travail en chacun de nous. Voilà. Et finalement, c'est la perversion de l'amour, vous comprenez, on finit par être envahi par les pensées d'évaluation. C'est bien, c'est pas bien. Et de jugement. Or, le Seigneur nous dit, ne jugez pas. Oui, mais si je veux ne pas juger, ça veut dire que Je vais commencer aussi par moi. Est-ce que j'accepte de ne pas me juger ici? Mais vous allez dire, j'ai pas de péché, mon père. Mais le jour où on découvre aussi ses racines de péché, on peut être assez en colère. Parce que ça ne correspond pas à notre idéal du moi. Alors c'est tout un travail, lorsque nous allons nous confesser, d'accueillir la justice de Dieu et non pas la nôtre. Parce que si nous demandons juste à Dieu de nous caresser dans le bon sens du poil, nous aider dans... seulement nous aider, là ça ne va pas le faire. Il va falloir qu'on prenne sa justice à la place de la nôtre. Et ça c'est un peu difficile, oui. Et c'est un acte de foi. Seigneur, ta justice à toi, pas la mienne. Parce que moi je ne sais pas pardonner. Puis moi je suis comme ce pharisien, moi je, tout va bien pour moi. Alors je vais juste dire des trucs un petit peu, voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a un problème avec la culpabilité. Si je me regarde dans la glace, c'est un psychologue qui dit ça, je ne rappelle plus son nom, vous voyez votre pire ennemi quand vous vous regardez dans la glace. Voilà, parce que chacun de nous, c'est vrai, on a un idéal du moi dans notre ego, et ça, c'est pas gagné. Et si on dit que c'est gagné, c'est que c'est pas gagné. Voilà. Alors, le contrepoison de l'esprit de domination, c'est quoi? Eh bien, c'est l'esprit de soumission évangélique. J'ai bien dit évangélique, car il n'est pas question de se soumettre à une emprise, aux emprises. Vous voyez ce que je veux dire? Les emprises qui sont des autorités inversées, qui vous détruisent. Là, je parle de la vraie autorité. Se soumettre à l'autorité. Apprendre à obéir d'abord à la parole de Dieu que nous lisons dans notre quotidien. Obéir évidemment à la loi de Dieu, les 10 commandements. On les prend tous, il y en a un qu'on va mettre à côté. Tous. Oui. Puis les commandements de Jésus, commandements de l'amour, on prend tout. Connaissez Sainte Mariam de Bethléem? Parce que vous avez tous été au Carmel de Pau, puis peut-être à Bethléem aussi. Eh bien, je la cite, « L'obéissance et la soumission sont deux cierges pour éclairer l'âme dans les ténèbres. » Allez, je vous le répète. L'obéissance et la soumission sont deux cierges pour éclairer l'âme dans les ténèbres. Éphésiens 5, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Alors mesdames, excusez-moi, je vais juste dire la phrase d'après. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Bon, arrêtez de me fusiller comme ça. Car il s'agit de l'esprit de soumission, l'esprit de soumission évangélique. On ne vous demande pas, mesdames, d'être des carpettes ou de vous soumettre à des emprises mortifères. Il n'est pas question de ça. Justement, juste avant, c'est pour les hommes aussi, les maris, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. On va apprendre à être soumis. C'est quoi la soumission? C'est déjà une écoute. Shema Israël, c'est écoute Israël. Et vous savez qu'en hébreu, le mot écouter veut dire aussi obéir. Est-ce que je suis à l'écoute véritablement? Ou est-ce que quand je suis avec quelqu'un, c'est moi qui parle et je, moi, hein, si tu savais, et puis je me raconte et moi. Voilà. Alors, c'est une écoute du besoin de l'autre, une écoute de ce qu'est l'autre, parce que finalement, la logique évangélique nous pousse au bonheur de l'autre. Nous cherchons le bonheur de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez Yvonne Aimée de Malétroit, donc une sainte personne. Son procès est ouvert. Elle est décédée donc dans les années 60, si je ne m'abuse. Et Jésus lui parle et lui dit, par rapport à sa mission de mère supérieure, elle lui dit, rends-les heureuses. Tes sœurs, rends-les heureuses. Vous voyez, ça c'est une autorité de service. Et donc, il y a une soumission. C'est un esprit de soumission. Pensez que Saint Joseph n'avait pas un esprit de soumission ? Oui, il était soumis. Il écoutait la voix de Dieu. Et il écoutait aussi Marie et Jésus. Et pourtant, c'est le modèle de l'autorité. Sachons recevoir des autres et recevoir de l'autorité aussi humaine. Vous savez, dans les épîtres de Saint-Pierre notamment, là, c'est un petit peu choquant à entendre, je vous l'accorde. 1 Pierre 2,13 « Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur qui est le souverain, soit aux gouverneurs qui sont ses délégués, etc. » Vous voyez, ça peut être un peu choquant à entendre, mais encore une fois, il s'agit de la soumission évangélique, c'est une écoute. Évidemment, si on vous demande d'aller vous faire exploser sur la place publique, vous allez dire non, et vous avez bien raison. Saint Thomas nous dit que l'obéissance religieuse, sa limite, c'est la conscience. Mais l'esprit de soumission, c'est un esprit qui nous pousse à écouter. Le canon 212. Les fidèles, conscients de leurs propres responsabilités, sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maître de la foi ou décident en tant que chef de l'Église. Ça, c'est l'esprit de soumission. Sinon, on est dans l'esprit de domination. Voilà. Et finalement, la dernière maladie spirituelle qui est pointée ici, ce sont les vaines paroles ou le vain bavardage. Alors, je vous rappelle une parole de l'Évangile qui est assez difficile à entendre, mais bon, vous me pardonnerez. Matthieu 12, 36 et 37. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. Alors attention effectivement à la parole qui est d'abord un attribut de Dieu. Dieu dit et cela est. Et nous savons bien qu'en sorcellerie, ce principe-là est appliqué à la lettre, car nous avons le pouvoir, par notre parole, de bénir ou de maudire. C'est pas moi qui l'ai dit, l'épître de Saint Jacques, chapitre 3, verset 9. La langue nous sert à bénir le Seigneur, notre Père, et nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, vous voyez que nous voyons que la parole, quand elle n'est plus, quand elle est déviée de son origine et de sa fin, c'est-à-dire déviée de Dieu, quand elle ne provient pas de Dieu, elle est vaine. Et elle va prêter main forte à la paresse, au découragement et à l'esprit de domination. Et voilà. Et finalement, la vie se transforme en enfer. Car l'enfer, ça commence ici-bas. Faites votre choix. On va dire non à l'enfer. Donc, Seigneur, je ne veux pas dans ma vie de l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Quels sont maintenant les buts positifs du repentir? Alors, le premier but ici, peut-être avant de dire le premier but, on dit « Mais Seigneur, je suis ton serviteur ». Oui, puisqu'il est mon maître, c'est clair. Et en même temps, nous sommes des amis de Jésus. Le serviteur, c'est l'attitude de l'humilité. Dieu est serviteur. Jésus nous l'a montré au moment de la veille de sa passion. Et il disait « Qui m'a vu a vu le Père et il m'a lavé les pieds de ses disciples. » Il est serviteur. Alors l'amour nous pousse à être serviteur, non pas de notre moi, mais serviteur du bonheur des autres. Et c'est là le sens de notre vie. Et si nous l'avons compris, nous commençons à être heureux. Car le vrai bonheur, les béatitudes, c'est cela. C'est de vivre cet amour agapé, qui n'est pas cet amour égocentré. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi, mais je t'aime parce que c'est toi. Et cet amour-là nous rend heureux. Alors, la première qualité que nous demandons à Dieu, c'est la chasteté. Le texte grec, il dit le mot « intégrité totale ». C'est difficile à traduire. L'intégrité totale, c'est-à-dire une unité de notre être qui fait que nous n'allons pas nous répandre comme une eau pas cadrée autour de nous. L'esprit de chasteté ou d'intégrité fait que l'autre, c'est l'autre, et moi, c'est moi. Et nous allons avoir une juste distance. Souvent, malheureusement, notre amour est intrusif. Et voilà que je me mélange à l'autre, et je me mêle, finalement, de ce qui ne me regarde pas. À vouloir diriger l'autre aussi, parce que je veux lui faire du bien, d'accord? Le manque de chasteté peut avoir des raisons subtiles, et vous avez entendu que la chasteté n'est pas nécessairement prise ici, n'est pas prise ici dans le sens sexuel. C'est une conséquence, le sens sexuel, évidemment. Mais on l'a déjà évoqué ici, le mot « chaste » vient du latin « castus », qui est la caste. On est séparé, on est dans une caste. Et psychologiquement, celui qui est chaste, c'est celui qui n'est pas « in castus », c'est-à-dire incestueux. Pas chaste, castus, in castus, qui a donné incestueux. C'est-à-dire psychologiquement, vous êtes libéré de cette relation avec votre mère, quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce que nous pouvons sortir du ventre de notre mère physiquement, mais pas psychologiquement, ni spirituellement. C'est-à-dire que je vais exiger, là où je suis, d'être comme dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que je vais vous pomper, les amis. Et je pompe mon entourage. Voilà, ça c'est la personne qui n'est pas chaste. Autrement dit, elle n'a pas trouvé cette présence de Dieu dans le fond de son cœur pour dire, comme sainte Thérèse d'Avila, « Dieu seul suffit ». Mais alors attention, on ne vit pas non plus dans une tour d'ivoire. Dieu seul suffit, oui. Mais devant les autres, comme nous sommes des êtres d'amour, nous avons toujours besoin de l'amour des autres, oui, mais nous allons nous situer comme des pauvres qui n'exigent rien. Celui qui n'est pas chaste va exiger l'amour. Ouais, tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui, et c'est toujours comme ça avec toi. Ça, c'est un manque de chasteté. Parce que vous exigez l'amour, et dès que vous exigez l'amour, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'en vont en courant. Ils ont bien raison. Ou alors, si vous aimez quelqu'un et vous lui téléphonez plusieurs fois par jour, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Vous n'êtes pas chaste. Et vous allez malheureusement dégoûter la personne que vous aimez parce que vous exigez d'elle qu'elle vous donne ce qui vous manque. Autrement dit, vous êtes idolâtre. Dieu seul peut vous donner ce qui vous manque. Pas les autres. Pardon, je vais continuer. Si, les autres peuvent vous le donner, mais c'est Dieu d'abord. Et il va choisir qui il veut. Je vous ai raconté un jour c'était une expérience personnelle. J'étais à Rome, vous savez, j'ai passé 2 ans à Rome. Et on arrivait avant les cours, et on allait à l'adoration. Moi, je me mettais dans le fond de la chapelle de l'adoration. Le matin même, j'avais dit au Seigneur quand même, montre-moi que tu m'aimes, quoi. Parce que la vie communautaire, waouh. Donc, moi, j'étais encore dans cette bataille qu'au petit déjeuner, les frères et sœurs ne disent pas bonjour. Parce que moi, avant, j'étais habitué, quand j'arrivais au bureau, de dire bonjour à tout le monde, quoi. Sinon, j'arrive en communauté, ils ne disent même pas bonjour. Waouh. Puis après, ils disent chrétien. Enfin, voilà. C'était un petit peu mon combat, pardon. Et j'en parlais à Dieu, quoi, ce jour-là. Et puis je disais, Seigneur, quand même, fais quelque chose, quoi. Et j'étais dans le fond de la chapelle d'adoration. Et il y a un clochard qui est rentré. Et puis, il m'a vu. Et il m'a imposé les mains. Il m'a dit, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Bon, en italien, c'est-à-dire, j'ai dit, Seigneur, t'as de l'humour. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un chant que j'aimais beaucoup, qui est en fait la prière de l'arche. Seigneur, bénis-nous par la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Et moi, je chantais souvent ça, quoi. Et puis, blouf, quelque part, vous voyez, le Seigneur m'a un peu plus mené vers cet esprit de chasteté, qui est, on prend effectivement en compte que nous sommes séparés, pas mélangés, pour mieux aimer. Voilà, ça c'est l'esprit de chasteté. Et dans nos préparations au mariage, évidemment, on va beaucoup parler de l'esprit de chasteté. C'est pas la continence, la chasteté. C'est cette juste distance qui fait que je peux voir l'autre pour ce qu'il est. Je t'aime parce que c'est toi. Je ne vais pas lui dire « je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Vous voyez? Non. La deuxième qualité que nous demandons, c'est l'humilité. L'humilité qui suppose, finalement, cette intégrité ou cette chasteté, c'est un fruit magnifique de la chasteté. L'humilité qui est d'abord une victoire de la vérité en nous. Seule l'humilité est capable de vérité. C'est-à-dire capable d'accepter et de voir les choses comme elles sont. De voir Dieu dans sa bonté, son amour, mais plus par rapport à moi, l'humilité. Humus, en latin, signifie terre. Nous sommes comme une terre. Et si nous ne recevons rien, eh bien, nous ne produirons rien. Et ça, c'est l'humilité. Et l'humilité qui est aussi une position de celui qui ne va pas s'arrêter à ses propres limites pour se décourager ou nier ses limites, mais qui sait se tourner vers Dieu pour tout recevoir de lui. C'est quand je suis faible que je suis fort, nous dit saint Paul dans 2 Corinthiens 12. Quand je suis faible, je suis fort. Ça, c'est l'humilité. L'orgueil veut tout savoir, tout faire par soi-même ou avec l'aide de Dieu. C'est subtil, hein? On peut être aussi dans cette position, je fais les choses avec l'aide de Dieu. Et Dieu n'est que l'aide. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et voilà ma prière, moi, 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 aide-moi. Non, Seigneur, je veux t'aider, toi, dans ton œuvre. C'est ce que nous disons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà. Saint Jean Climac. L'humilité est un don de Dieu lui-même, car il est dit « Apprenez de moi ». De moi demeurant en vous, de mon illumination, de mon opération en vous, que je suis doux et humble de cœur, de pensée et d'esprit, et vous trouverez pour vos âmes l'apaisement des combats et le soulagement des pensées. On pourrait parler beaucoup de l'humilité. On reçoit, on accueille en faisant abstraction de nos jugements et tout devient plus facile. Dieu est Dieu et cela suffit, comme disait saint François au moment où il était le plus éprouvé. Ça, c'est la position de l'humble. Vous savez, saint François qui a fait une énorme dépression parce qu'il voyait que son ordre était en train de dévier. Lui, il voulait quelque chose d'hyper radical. Et ce qu'il a sauvé, entre guillemets, Dieu est Dieu. Cela suffit. Et troisième qualité de cœur que nous demandons, c'est la patience. La patience, qui sont ce fruit de la chasteté et de l'humilité. L'homme déchu n'a pas de patience. On veut tout tout de suite. Le plaisir immédiat. Un clic. Ouf. Et cet homme, le vieil homme en nous, qui s'est laissé entraîner dans l'orgueil, eh bien, va refuser aussi de prendre sa croix. Celui qui est patient, c'est celui qui accueille aussi la part de souffrance qu'il a dans sa vie, mais qu'il accueille avec Dieu, car sans Dieu, est-ce que nous pouvons l'accueillir? Souvent, ce qui empoisonne nos vies, c'est que nous n'acceptons pas ce qui fait mal. Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive. C'est pas du tout du dolorisme, c'est qu'il y a deux attitudes dans la souffrance. Il y a une première attitude qui nous est assez naturelle, qui est une attitude de révolte. Si c'est pas contre Dieu, ça sera même contre contre nous-mêmes, ou alors contre les autres. Et on va s'installer là-dedans. Je vous rappelle cette parole de la petite Thérèse quand elle est sur son lit de mort. Elle souffrait beaucoup, puisqu'elle avait une tuberculose qui tombait aussi au niveau de l'appareil digestif. Puis il n'y avait pas de soins palliatifs. Et elle disait, je souffre. Mais est-ce que je souffre bien? Souffrir bien. Le bien souffrir, c'est la patience. La patience, qui est un des fruits du Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Dieu peut nous donner ce fruit du Saint-Esprit. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter et puis on va devenir maso. Non. Mais c'est une attitude de cœur. Dieu est patient. Il est patient non pas parce qu'il est indulgent, mais parce qu'il voit la profondeur de ce qui existe. Et il sait que, à l'image des plantes qui poussent très progressivement, l'épreuve nous transforme aussi progressivement si nous acceptons cette patience de Dieu dans nos cœurs. Bon, je vous renvoie au livre du Siracide, chapitre 2. Toi qui prétends servir le Seigneur, attends-toi à l'épreuve. Car la poix est éprouvée comme l'or au creuset. Dieu est patient parce que son amour supporte tout. Et il ne se laisse vaincre par aucune résistance, aucun refus, aucune souffrance. Il se propose toujours, Dieu est patient. Et la patience fait confiance au temps. Cette patience, nous l'entendons, c'est celle de Jésus dans nos cœurs. Rappelons-nous donc tous les fruits du Saint-Esprit que vous trouvez dans Galates 5, vers les versets 20-21. Donc les premiers fruits, c'est l'amour, la paix, la joie. Puis vous trouvez la patience, l'humilité, la douceur. Voilà. Et enfin, la dernière qualité que nous demandons, c'est la charité, c'est l'amour, cet amour agapé. Donc, je nous rappelle la définition de cet amour dans la Bible, 1 Corinthiens 13, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, c'est-à-dire pardonne tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Alors je vous propose un petit exercice. À la place du mot amour, vous mettez votre prénom. Est-ce qu'il y a un volontaire? Bon, on va dire le volontaire, il s'appelle Paul. Alors on y va. Je ne sais pas s'il y a de Paul ici. Paul prend patience. Paul rend service. Paul ne jalouse pas. Paul ne se vante pas. On va changer, il n'y a pas une Christine par là? Christine ne se gonfle pas d'orgueil. Christine ne fait rien d'inconvenant. Christine ne cherche pas son intérêt. Allez, on va dire Christian maintenant. Christian ne s'emporte pas. Christian n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Allez, Pierre. Pierre supporte tout. Vous traduisez aussi le grec, c'est couvrir. Donc moi, je préfère finalement l'autre traduction. Pardonne tout. Pierre pardonne tout. Il fait confiance en tout. Pierre espère tout. Pierre endure tout. Bon, j'espère que vous êtes reconnus. En fait, on va demander au Seigneur cet amour qui est la présence même de son Saint-Esprit. Et nous comprenons finalement, ce qu'est la vie chrétienne, c'est pas juste une leçon de morale, soyez gentil, soyez poli. Non, non, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça, je vous propose des bons coachs, ils vous aideront pour ça. Mais on va à l'église pour que cet amour de Dieu habite dans nos cœurs et circule. Voilà. Et ça, c'est l'alliance dans le sang de Dieu lui-même, de l'agneau. Il nous donne son sang pour que son sang coule dans nos veines. Finalement, on est tous des juifs. ces mythes spirituels. C'est pas de moi, hein, c'était Pie XII qui disait ça. Malgré ce qu'on lui a reproché éventuellement. Ah oui, recevons le sang et le corps d'un juif pratiquant. Nous sommes greffés sur cet olivier franc. Et le Saint-Esprit va circuler dans nos cœurs. Vous savez, Saint-Philippe Néri, pour ceux qui ont été à Rome, il y a ses reliques à Rome, et son cœur, il a écarté ses côtes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, parce que l'amour de Dieu, ah, waouh! Voilà, alors on va demander à Dieu qu'il écarte les piquets de nos tentes, qu'il trouve plus de place en nous, et c'est vrai qu'il a besoin de notre permission, parce que l'amour c'est dangereux, oui, je ne sais pas où est-ce que ça nous mène, si c'est vraiment l'amour. Voilà, mais l'amour c'est le bonheur, et le bonheur nous fait sortir de notre coquille, vous voyez. Alors on demande à Dieu qu'il mette en nous son Esprit Saint. La conclusion, on demande au Seigneur de voir nos fautes et de ne pas condamner. De ne pas condamner. On est du côté de Dieu, on n'est pas du côté de l'accusateur. C'est très important de travailler sur nos rancunes. Je me suis un peu amusé hier parce que j'ai rencontré un monsieur fort sympathique. Chez moi, c'est le passage des pèlerins de Saint-Jacques. Alors il y a un monsieur qui marchait, mais voilà. Et puis il me dit, moi je prie, mais je ne vais pas à l'église. Je dis, c'est trop dommage. Vous privez des sacrements, c'est quand même dommage. Alors vous savez, j'ai été enfant de cœur, hein, il me racontait, puis j'ai été prof dans une école chrétienne. Je dis, c'est super, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il ne voulait pas me le dire. Je lui dis, vous avez peut-être des choses à pardonner. Et il m'a dit oui. Bon, voilà. De voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère. Autrement dit, on se met du côté de Dieu. C'est toujours scandaleux, hein, parce que la femme adultère, que tout le monde condamnait, Jésus ne l'a pas condamnée. Sauf que ce n'est pas un truc facile. Il ne l'a pas condamné parce qu'il a pris sur lui sa condamnation sur la croix. Donc si nous, nous refusons de pardonner, nous refusons le prix du sang que Jésus a payé pour cette personne que je refuse de pardonner. Vous voyez, c'est un peu grave. Donc c'est proprement diabolique. Je ne veux pas que le sang de Jésus vienne sur cette personne pour la délier. Je ne pardonnerai pas. Donc c'est moi, c'est ma justice à moi, moi. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas porteur du Christ. Parce que si je suis porteur du Christ, la justice du Christ, elle va passer avant la mienne. Et elle va convertir la mienne. Voilà. Saint Isaac le Syrien va peut-être terminer là-dessus. Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Pas mal, non? Oui, parce qu'on ne peut voir son péché que dans la lumière de Dieu. Et celui qui voit son péché, c'est celui qui voit la lumière de Dieu. C'est celui qui voit le cœur de Dieu. Et là, il est grand. Voilà. Alors, pour terminer, je propose que nous nous levions et que nous prions cette prière de carême. Un peu à la façon de nos frères et sœurs orthodoxes. Un peu. C'est-à-dire, vous allez faire ceux qui veulent, hein, comme moi. Après les premières demandes, on demande d'être libéré des maladies spirituelles, nous nous inclinons. Normalement, il faudrait s'incliner même le front contre terre, mais on ne va pas le faire. Ensuite, on fait aussi une métanie, quand on a dit les quatre qualités que nous demandons à Dieu, plutôt les quatre vertus. Et enfin, on va refaire cette inclinaison. Après, nous dirons 12 fois, ô Dieu, purifie-moi pécheur, vous pourrez me suivre. Et après, on recommencera avec la prière tout entière. On fera la métanie, c'est-à-dire inclinaison, qu'à la fin. Ça se passera très bien, ne vous inquiétez pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, purifie-moi pécheur. 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 Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner.